suis vraiment ravie d'avoir participé à cette journée sur, à Bordeaux. Alors, c'est vrai que je suis déléguée à la protection des données au CNRS, un service qui est national. Et pourtant, je n'habite pas très loin, puisque voilà, je suis dans les locaux du CNRS à côté. Et donc, voilà, c'est très très intéressant toujours de travailler et d'être à l'écoute de toute la communauté. C'est aussi compliqué d'intervenir à la fin, d'essayer de faire une synthèse. Alors, je n'ai pas forcément réalisé une synthèse. Les échanges et les présentations étaient extrêmement riches, extrêmement intéressantes. Et on voit que voilà, tout se complète, tout est maillé dans votre quotidien. Et donc, j'en profite vraiment pour remercier toute l'équipe de Somaté ici à Bordeaux d'avoir organisé, d'avoir lancé cette dynamique sur la science ouverte, sur l'utilisation des données. Je remercie également tous les participants parce que je vois que vous êtes encore là et encore intéressés et encore voilà, à l'écoute de quelques, peut-être des petits messages sur la science ouverte hein, qui est effectivement, là vous l'avez, on l'a vu, hein, qui est une orientation politique de nos ministères de tutelle, hein, puisque effectivement dans les établissements on a à la fois le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche, mais également le ministère de la culture, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'industrie, enfin en charge de l'industrie, sont tous et développent des recherches et ont tous cette question d'ouverture de la science et d'ouverture des données dans leur politique. Il y a donc alors les tutelles, hein, bien évidemment, l'Université de Bordeaux, l'Université Bordeaux-Montaigne, le CNRS. Je précise juste que l'INIST est un service de la direction rattaché à la direction des données ouvertes de la recherche. Donc le PGD qui nous a été présenté par Lauriane tout à l'heure, on est vraiment dans cette dynamique d'ouverture des données. Il y a un foisonnement de documentation, il y a un foisonnement de structures, d'infrastructures qui vous aident. On a cité Humanio, on a cité Projet d'eau. J'ai la chance d'accompagner sur la partie protection des données les deux infrastructures que vous connaissez, hein, qui ont été citées. Donc effectivement, je peux en valider la conformité à la protection des données. En tout cas, on travaille pour, même si on a toujours à s'améliorer, effectivement, mais il y a vraiment une garantie et une sécurité de notre côté. Les services qui sont certes au CNRS avec les NIST pour les PGD, on a aussi les services en charge de la protection des données, les services de sécurité, système d'information, les services des archives. Donc il y a beaucoup de monde, des réseaux métiers, Somaté, l'URFIST, on a le réseau qualité en recherche. Donc énormément de monde mobilisé sur cette question de protection, d'ouverture des données, de diffusion des données. Donc si on a pu évoquer la recherche reproductible, hein, donc effectivement les PGD qui sont certes une réponse aux demandes des financeurs, et il faut effectivement anticiper, mais c'est aussi un outil de management de la recherche, ça fait aussi partie des pratiques éthiques et responsables de la recherche, je vais presque vous dire avant toute chose. La publication en accès ouvert, donc il y a différents modèles, hein, HAL, OSCAR, et là aussi sur les publications en accès ouvert, une très très forte mobilisation du CNRS avec des avancées, il me semble, avec certains éditeurs assez conséquents. Je sais que la direction générale est très très mobilisée pour faciliter ces publications. La protection des données des auteurs, des personnes, en fait, vous avez eu l'intervention de mon collègue de l'Université de Bordeaux, c'est une question qui est centrale pour nous. J'en parlerai plus tard, mais les risques existent dans les établissements, ils existent aussi autour de nous et chez nos partenaires. Il y a un certain nombre de précautions à réaliser. Les sciences participatives, alors il y a un intérêt évident, effectivement, à démultiplier, à avoir différentes sources d'informations, des collectes, l'accompagnement et l'aide de la société civile. Pour autant, il y a beaucoup de précautions quand même à prendre, parce qu'on a parlé de Wikipédia tout à l'heure, mais quand on parle du globe, il y a tout en fait. Hein. Et les personnes qui à l'instant T acceptent de participer, puis 6 mois après, ils nous disent non, vous supprimez tout. Enfin, voilà, c'est quand même une gestion qui est compliquée, même si elle nous aide. Les enjeux environnementaux du numérique, hein, la fresque qui en témoigne. La collecte des données, leur réutilisation, il faut vraiment fiabiliser en fait, hein, cette étape. Je vous ai un petit peu appuyé dessus tout à l'heure, enfin, vous en parlez. Et la sécurité des données, donc la présentation du Black Cloud, la présentation de l'offre Humanium qui est effectivement hébergée en France, donc sur les serveurs du CNRS. Et donc là, je peux effectivement attester toute la, la possibilité et donc la sécurisation de cette offre, chiffrée, voilà, tout ce qui va bien et qui est conforme et qui va bien, plaît bien aux responsables de la sécurité des systèmes d'information du CNRS, et Dieu sait s'il est exigeant. Mais vous avez aussi le cloud des espaces corps au CNRS, donc vous avez les espaces à l'INRIA, à l'INRAE, donc différents outils qui vous sont proposés sur cette partie sécurité. Mais il ne faut pas oublier, pour les doctorants, pour les chercheurs, pour les ingénieurs que vous êtes en charge des données, vous êtes certes confronté à toutes ces dimensions, vous êtes aussi confronté à un corpus réglementaire très conséquent. Certes, la protection des données personnelles, le code de la santé publique, le code du patrimoine, tout ce qui est la sécurité, la souveraineté numérique de l'État, donc c'est autant de réglementations qu'il convient de suivre, à laquelle nous sommes tous, en fait, en tant qu'établissement public, hein, nous devons vraiment y participer et respecter ces réglementations. Donc, j'ai vu tout à l'heure, ce matin, que la CNIL a infligé une amende de 40 millions d'euros à Criteo pour non-respect du règlement sur la protection des données. Donc on ne parle pas petits sous, hein, maintenant on parle vraiment des montants importants. En matière de recherche, il y a aussi deux aspects essentiels. La recherche, il ne faut pas oublier que c'est un bien immatériel, ça fait partie du patrimoine de l'État qui doit être protégé. Et en ce sens, alors vous avez peut-être entendu parler des actions des fonctionnaires sécurité-défense, la souveraineté de l'État. Donc vraiment, on a à protéger notre production et votre production scientifique. Les pratiques éthiques et responsables de la recherche qui ont été réaffirmées en fait dans un décret du 3 décembre 2021, relatif aux exigences de l'intégrité scientifique. Et là, on y parle bien, et de mémoire, ils sont nommés des plans de gestion de données qui participent en fait à ces pratiques éthiques de la recherche. Donc on est effectivement loin maintenant de la seule préoccupation financière qui était cette préoccupation au départ, hein, mais maintenant c'est vraiment, les PGD sont inscrits dans la loi, donc ils participent à toute cette organisation de la recherche. Et en même temps, on vous demande d'ouvrir aux données, d'être dans d'avoir un accès ouvert à la publication, aux données, avec une possibilité. Alors, une possibilité d'ouvrir les données, ces données, elles doivent être ouvertes autant que possible et fermées autant que nécessaire. Donc, pour un certain nombre d'informations, de données, vous allez pouvoir les ouvrir. Pour d'autres, ça ne sera pas le cas. Donc, quand vous travaillez, je pense à DSE, sur des questions d'innovation, de brevets que vous collectez, donc les données des inventeurs, il est bien évident qu'on ne va pas mettre sur la place publique les données des inventeurs. Enfin, les données personnelles, je parle des inventeurs, ou même les données tout simplement des inventeurs sur les brevets, ça va être très compliqué. Par contre, on peut peut-être le faire dans des conditions spécifiques pour la recherche. Donc, quand nous parlons d'ouverture des données et de sciences ouvertes, on ne parle pas uniquement d'open access. Bien évidemment, quand on parle notamment de données à caractère personnel, le principe général, c'est qu'on ne peut pas réutiliser les données déjà d'autres fins que celles que l'utilisation initiale, et on ne peut pas mettre sur la place publique les données des participants à la recherche. Imaginez si on retrouve demain, d'ailleurs vous l'avez vu dans la presse, ça arrive, imagine quand on retrouve des données de santé des personnes sur la place publique, ou bien les données des accès aux à des subventions de l'État ou des aides particulières pour des personnes vulnérables, il n'est pas pensable que ces informations soient diffusées même en open access. Donc il y a toute une organisation, et la réglementation de la RGPD est vraiment intéressante sur ce point-là, c'est qu'il permet, il donne une dérogation à la recherche pour réutiliser les données à caractère personnel dans un contexte bien, bien particulier. Alors, bon, je vous parle effectivement plus de données personnelles puisque c'est mon cœur de métier aujourd'hui. Mais vous pouvez réutiliser des données, y compris et notamment des données personnelles, dans un cadre particulier. La première chose, c'est qu'il faut que les données collectées en première instance, et donc là je prends le cas peut-être des corpus que vous pouvez réutiliser et qui sont hébergés à Progeno. Donc toutes les enquêtes, toutes les données collectées, les grandes enquêtes, Ellipse, etc., les enquêtes de l'INSEE, voire aujourd'hui les données de santé dans les hôpitaux, peuvent être réutilisées sous réserve que la réglementation sur la protection des données personnelles ait été respectée lors de la première collecte. que les personnes aient été informées de la possible réutilisation à des fins de recherche scientifique. Donc on a ces deux conditions. Et on n'est pas les données, on ne réutilise pas les données en open access. Donc ensuite, on protège ces données avec des hébergements sécurisés, avec des entrepôts de données de santé. Donc parfois, selon les collectes, les données vont être anonymisées. Donc là, anonymisées, vous oubliez les délégués à la protection des données, puisque là, il n'y a plus de données personnelles. Donc il n'y a plus de réglementation qui s'applique, il y en a d'autres. Par contre, quand vous avez les bases de données d'ortholangue sur le plan linguistique, quand vous avez les corpus de l'infrastructure projet d'eau, vous pouvez réutiliser les données en réalisant à nouveau les démarches sur la protection des données personnelles. Donc ça signifie qu'il faut réinformer les personnes. Donc ça peut être compliqué, hein, mais il faut réinformer les personnes, il faut à nouveau sécuriser les données. Et parfois, il faut faire des démarches un petit peu d'analyse de risque du quant à l'utilisation des données personnelles. Mais pour tout ça, vous êtes organisé. Donc le point, c'est que vous avez aussi des possibilités d'utiliser des données très sensibles, donc notamment les données de santé. Hein. Aujourd'hui, vous avez accès, donc dans les laboratoires, il y a un accès possible aux données du système, à toutes les données du système national des données de santé, le SNDS, pour ceux qui le connaissent. On a des entrepôts de données de santé, la PHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHM à Marseille également construisent des entrepôts de données de santé. Donc en fait, ce sont des espaces qui sont sécurisés. Les données ont été collectées normalement conformément à la réglementation. Et vous pouvez, sous certaines conditions, pour les projets scientifiques, réutiliser ces données. Donc ce qui est intéressant, c'est que, en fait, là, on a une manne et une possibilité de projets scientifiques démultiplier. Donc l'intérêt de la science ouverte, c'est effectivement de multiplier, démultiplier les projets scientifiques, les avancées de recherche. Donc selon les projets, je vais juste faire un petit focus sur les recherches dans le domaine de la santé. Donc vous pouvez avoir accès en tant que données personnelles, hein, quand on parle, on a beaucoup d'images, de questions d'imagerie. Les IRM, où ce matin on avait un collègue en neurosciences qui doit collecter ou en tout cas utiliser des données de patients. Donc vous avez des données pseudonymisées, puisqu'en fait le nom et le prénom de la personne, vous vous en moquez complètement. Par contre, les images, vous pouvez en avoir besoin pour votre recherche. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a des démarches particulières à réaliser si vous réalisez des recherches avec intervention des personnes humaines. Et là, vous avez une démarche éthique avec une demande d'autorisation auprès du comité de protection des personnes. Alors, il y a une réglementation qui permet, il faut une autorisation du CDP, en plus de la démarche et de la conformité sur la protection des données. Ou parfois, vous utilisez des données de santé qui sont des données sensibles, ou vous avez des projets qui peuvent être sensibles, qui nécessitent un avis du comité d'éthique, d'un comité d'éthique de la recherche. Donc je crois qu'il doit y en avoir au moins un comité sévère sur Bordeaux. Sinon, du côté du CNRS, on travaille énormément avec le comité d'évaluation et d'éthique de l'INSERM, qui nous connaît très bien et qui travaille beaucoup sur les projets en SHS. Donc, on n'est pas uniquement sur les projets en sciences de la vie, santé et sur le soin. On est effectivement beaucoup là sur la partie SHS. Donc, ne pas oublier sur ces volets de traitement, de travail sur les données personnelles, cette orientation éthique. Alors, les données et la science ouverte, hein, donc la recherche est une activité qui attire beaucoup. Donc, la donnée comme est un bien, je vous le disais, un bien matériel, comme les hommes et les femmes qui travaillent dans les établissements d'enseignement supérieur et dans la recherche. Donc, on a vraiment des ressources extrêmement conséquentes et extrêmement attirante pour les personnes qui sont, je vais utiliser le terme de personnes malveillantes, hein, puisque voilà, vous comme moi, on fait notre métier, donc on n'imagine pas que nous pouvons avoir des pirates qui viennent nous chercher ou qui viennent s'introduire dans nos boîtes mail. Et pourtant, l'enseignement supérieur et la recherche, donc, qui est très attractif, il y a eu et il y a encore, et je crois qu'il y en a eu en cours, une violation de données, donc il y a des problèmes d'intrusion dans des établissements. Il y a eu dans l'est de la France, pour citer Grenoble, Strasbourg, Marseille, Toulouse, je crois qu'il y en a une en cours dans l'ouest. Donc on a vraiment des personnes qui s'introduisent dans les réseaux, qui sont en capacité de capter en fait toutes les données. Et donc c'est pour ça que vous avez eu tout à l'heure la présentation des collègues de l'Université de Bordeaux sur le cloud sécurisé de l'université. Pensez bien aussi à utiliser des environnements de travail sécurisés, donc des postes chiffrés. Quand vous traitez des données, hein, ça va au-delà des données à caractère personnel, c'est vraiment les données et c'est votre production. Les outils qui vous sont fournis sont conformes à la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Les avantages sont que les archivages sont réalisés. Donc j'ai en tête en fait une violation de données, hein, en fait une tentative de piratage dans un laboratoire de recherche en région parisienne la semaine dernière. Il se trouve que l'outil utilisé par la directrice de l'unité, en l'occurrence, c'était un outil du CNRS. Donc la base a été perdue, mais c'était la base en live. Comme il y avait les archives, donc en fait, elle n'a absolument pas perdu l'ensemble de ses travaux. Donc quand un poste de travail est un poste personnel, vous le faites, vous l'avez sur le quai de la gare, dans le train, alors la gare de l'Est est... attire beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais bon, votre ordinateur personnel disparaît, si vous n'avez fait aucune sauvegarde, vous perdez tout. Et donc un certain nombre de collègues ont pu perdre 10 à 15 ans de données d'activité de scientifiques parce qu'ils n'avaient pas tout simplement, enfin ils avaient omis de sauvegarder ou d'archiver leurs données. Donc pensez à ces offres des partenaires universitaires. Donc UB, UBM, CNRS, IDRAE, IDRIA. Donc pour protéger ces données, vous avez aussi pour protéger les données d'autres leviers, donc les durées de conservation, on a parlé d'archivage, mais inutile de garder 25 ans des listings de personnes que vous allez contacter au bout de 10 ans, même au bout de 3 ans, vous montez 3 ans en arrière. Le listing est sans doute obsolète, donc il faut penser à remettre à jour, écraser, enfin en tout cas supprimer les données antérieures. Et puis alerte aussi sur la pratique, notre pratique des réseaux sociaux. On trouve de tout sur les réseaux sociaux, et c'est extrêmement intéressant parce qu'on trouve de tout également sur les sociétés. Donc quand une société lance un arrêt il n'y a pas très très longtemps, je cherchais le nom d'une entreprise pour des travaux perso et je suis tombée sur le fichier des impayés. Voilà. Et j'ai vu que 10 ans avant, la société avait eu un problème. Vous voyez l'image que ça rend, alors que pour aujourd'hui, il est possible qu'il n'y ait absolument pas de difficultés. Mais les réseaux sociaux peuvent être utilisés, bien évidemment, mais avec des précautions tous les jours. Alors, j'ai hésité, mais voilà, je vais peut-être vous donner, alors peut-être pour que ça suscite des questions chez vous, vous donner un exemple de situation, de questions que nous pouvons qu'il est possible que vous nous posiez. Donc, la personne qui me l'a envoyé, je pense, va se reconnaître. Un chercheur souhaite collecter les données sur le web à partir d'un forum de discussion d'une communauté d'extrémistes en tout genre. Donc extrémistes, ça veut dire voilà, des orientations politiques, des données, des informations sensibles. Voilà. Et donc le chercheur souhaite travailler et réutiliser des données qui sont sur un forum de discussion et donc qui peuvent être effectivement utilisées à des fins de recherche, hein, il n'y a pas de souci, mais pas n'importe comment. Il veut à la fois récupérer les données, mais en plus il veut échanger avec les personnes. Donc ça aussi c'est possible, sauf qu'il faut peut-être, se poser des questions. Quel est l'objectif? Pourquoi collecter ces données? Quelles sont les données qui peuvent être partagées? Est-ce qu'il est possible de réutiliser les données? Comment on travaille? Comment les partager? Avec qui? Pendant combien de temps? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on peut les réutiliser? Enfin, c'est presque des questions qui sont soulevées dans les plans de gestion de données. On a le cycle de vie, de la collecte de données, jusqu'à l'hébergement, le stockage, la réutilisation. Donc on a vraiment ce cycle. Et donc on a à la fois les données des participants à la recherche. Donc, on n'est pas oublié que les participants à la recherche sont des personnes de la société civile qui nous aident à faire notre métier. Donc il y a un respect en fait de ces personnes en les informant de ce que nous pouvons et de ce que nous souhaitons faire avec leur leurs informations. En général, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, mais tout c'est désinformé, c'est-à-dire que la recherche est crédible. Donc on a une bonne, globalement une bonne image auprès de la population. Et si quelqu'un ne veut pas participer à un projet, il le dit tout simplement et puis on passe à la personne suivante, il n'y a même pas de sujet. Donc il y a les personnes effectivement qui participent à la recherche, mais il y a aussi la protection des chercheurs. C'est-à-dire que là, quand un chercheur veut s'introduire et veut utiliser ou veut travailler avec des communautés d'extrémistes, d'ailleurs ça peut être n'importe quel extrémiste, jusqu'où il va pour réaliser son étude. Est-ce que les établissements les protègent ou pas? Sans doute, je ne vais pas répondre aux questions forcément, mais ce sont des questions légitimes qu'il faut se poser effectivement quand on commence un projet scientifique, et ça fait partie des questions qui peuvent être soulevées. Je vais conclure en fait en vous disant, et je crois que la science ouverte, c'est vraiment intéressant, elle ouvre des perspectives de recherche vraiment extrêmement nouvelles. Que ce soit les bases de données, donc les enquêtes avec issues mises à disposition par Progélo, donc on a à la fois effectivement les enquêtes des établissements INSEE, etc., mais Progélo accueille aussi des données et des bases, des enquêtes que vous pouvez réaliser. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, donc en fait, c'est pas Progélo, ne vérifie pas au cas par cas, mais il y a un engagement à des déposants, en fait, des producteurs de données à respecter la réglementation sur la protection des données personnelles quand il y a lieu. Et donc le réutilisateur s'engage aussi à réutiliser les données conformément à la réglementation. Donc on a cette continuité dans l'accès aux données, dans la richesse des données et dans la conformité et la possibilité d'utiliser sereinement et de faire sereinement votre métier. Les données dans les entrepôts, donc il y a énormément d'entrepôts, quels qu'ils soient, hein, et puis vous avez des possibilités d'hébergement. On a parlé d'hébergement sécurisé pour les données sensibles. En fait, il y a énormément de sujets avec les données sensibles, donc les données sensibles, données personnelles sensibles, sont toutes les données qui ont trait aux données de santé, données génétiques, aux orientations religieuses, au genre, aux orientations sexuelles, aux orientations génétiques. Donc, énormément d'informations. Vous avez le centre d'accès sécurisé aux données qui vous permet d'accéder aussi à des informations et à des bases nouvelles. Et je vois qu'ils s'enrichissent au fur et à mesure avec des possibilités de réutilisation et des accès sécurisés. Vous avez les accès aux données de santé, je vous parlais du système national des données de santé ou du côté du CNRS, si cela intéresse dans les laboratoires, nous avons un accès permanent au SNDS. Alors la démarche est assez compliquée, quand on passe par la dynamique de projet, vous avez pour un an et demi de procédure. Quand on passe par l'accès permanent du CNRS, on est à moins de 6 mois de démarches administratives en tant que telles, mais en fait ce sont des démarches d'autorisation pour accéder à ces données qui sont des données sensibles, parce que vous avez les données, sans doute les vôtres, d'ailleurs de toute façon les vôtres, celles de vos voisins, et donc il y a accès aux données et à un certain nombre d'identifiants, donc les données qui sont hautement sécurisées, et l'INRIA a également un accès permanent. L'INSERM a un accès permanent, donc on a cette possibilité d'accélérer les démarches pour, pour le coup, là, des perspectives scientifiques vraiment multipliées dans le domaine de la santé. Je voulais également, et j'ai dit, rappeler les pratiques éthiques et responsables de la recherche. On est vraiment sur les fondements de la qualité de la recherche, on est sur les fondements de la fiabilité du progrès de la connaissance. Donc on est dans cette démarche éthique, déontologique, d'intégrité scientifique qu'il faut avoir en tête lorsque vous ouvrez les données. Alors toutes ces règles, on a l'impression, et vous allez me dire, punaise, encore de l'administration, on en a marre. Mais en fait, ces règles, elles contribuent vraiment à la valeur ajoutée de la recherche. C'est vrai que quand on a une violation de données, comme j'ai pu le voir la semaine dernière, dans un laboratoire, quand on voit que l'information des personnes a été réalisée, que les démarches, les données ont été minimisées, on tremble moins pour les personnes, donc les risques sont minimisés par rapport à d'autres bases qui sont parfois mises sur la place publique, qui n'ont pas pu être sécurisées à temps. Et là, il y a des possibilités de réutilisation d'usurpation d'identité et des conséquences assez graves pour les personnes. Donc dans toute cette dynamique de sciences ouvertes, c'est vrai que MATSHS y contribue, SOMATE y contribue. Vous disposez, vous avez vraiment la chance, alors je le dis très simplement, vous avez à Bordeaux des compétences qui sont réunies, vous avez des accès qui sont extrêmement facilités. Vous aurez, je pense, d'autres occasions de discuter de ces questions de sciences ouvertes, de données, de réutilisation des données, de sécurité des données à l'occasion de la prochaine semaine. Je ne sais plus, la prochaine semaine de la data dont Claire et Solène et Karine ont parlé tout à l'heure, là, donc deuxième semaine de décembre, mais pas que. Donc voilà, je pense que vous avez à nouveau de belles perspectives de rencontres. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, merci pour la dynamique créée sur Bordeaux et j'espère peut-être un atelier de la donnée dans les prochaines semaines, ça serait une belle réussite pour le site. Merci à vous.
Merci beaucoup. Ça nous motive, là, ça va être positif. Donne envie de continuer. Est-ce qu'il y a des questions ?
Merci beaucoup déjà, parce que je pense qu'un des problèmes qu'on a là, je parle plutôt en tant que chercheur, c'est qu'on est totalement incompétent sur les questions juridiques et que ça vient souvent en plus et que c'est souvent pour ça que c'est perçu comme une contrainte, alors même qu'on est quand même dans l'ensemble persuadé que c'est utile. Et je sais que moi, ce qui m'a pris le plus de temps quand j'ai fait des déclarations, c'était déjà de trouver ce qu'il fallait que je fasse, pas tellement le faire, mais trouver ce qu'il fallait faire. Donc sur ça, le jour où j'ai trouvé votre adresse mail et celle de Sylvie Collignon, je crois que c'était un eureka pour moi et tout allait beaucoup mieux dans ma vie. Mais j'ai une question sur les données ouvertes et notamment ce qui va concerner plutôt des données qualitatives. Moi, je suis en sociologie et du coup, tout ce qui est problématique des questions liées aux entretiens, en fait. Et si on veut bien faire et les ouvrir, ces données, comment est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Est-ce que c'est des choses qu'il faudrait demander dès des consentements écrits? Comment est-ce qu'on peut véritablement rendre ces données ouvertes et suffisamment anonymes pour qu'elles soient partagées et mises à disposition? Et autant je vois beaucoup de choses qui sont faites et des guides qui me semblent à peu près clairs sur les données quantitatives, autant j'ai l'impression qu'on est au degré 0, voire moins 1 pour ce qui est données qualitatives à l'entretien pour l'instant, et je ne sais pas trop quoi faire en fait.
Alors, je reviens sur un point, les données à caractère personnel, quand on regarde le RGPD, enfin vraiment la réglementation, le principe c'est que les données peuvent être utilisées, traitées dans un cadre défini. Prenez votre opérateur de téléphonie, donc, par exemple, qui collecte des données à caractère personnel sur vous pour pouvoir vous offrir un service de téléphonie. Il ne peut pas réutiliser les données pour faire de la recherche. Ça, pour lui, c'est totalement, c'est totalement interdit. Normalement, c'est interdit. Du côté des... On a la possibilité, en matière de recherche, pour nous, établissement public, on a cette possibilité de réutiliser les données à des fins de recherche. Ça ne veut pas dire... Alors, dans le cadre de la science ouverte, c'est un point qui est extrêmement important, ça ne veut pas dire open data. Ça veut dire réutilisation à des fins de recherche scientifique. Donc vous pouvez, votre voisin ou dans votre laboratoire, ou un laboratoire qui est lancé, je ne sais pas, où pourrait souhaiter réutiliser les données, il prend contact avec vous et vous en discutez. Mais cette personne ne pourra pas, ne pourra pas réutiliser les données si, par exemple, vous n'avez pas fait les démarches RGPD, vous n'avez pas connu, vous n'avez pas connu notre équipe et vous n'avez rien fait. Ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps de dire à un chercheur, en fait, il n'avait pas informé les personnes de la possible réutilisation des données, je lui ai déconseillé d'ouvrir ces données, dans la mesure où les données étaient extrêmement sensibles. Donc vous avez, alors on n'est pas au degré zéro, par contre, on a nous aussi à nous améliorer.
Degré zéro, c'est pour nous-mêmes.
Nous aussi, à un moment, on n'était pas non plus quand on a commencé, on était au degré zéro. Donc, moi, je peux pas. Enfin, le discours que je vous tiens aujourd'hui, je ne le tenais pas en 2018 quand j'ai pris mes fonctions. On est tous montés en compétence sur la protection des données, sur la science ouverte. On est tous. c'est normal, c'est bien. Par contre, dans les notes d'information, quand vous faites un entretien, quand vous conduisez un entretien, vous pouvez ajouter la petite phrase, une petite phrase en disant « les données pourraient être réutilisées à des fins de recherche », mais exclusivement à des fins de recherche, sauf si la personne s'y oppose. Donc ça, vous l'indiquez, donc on fera on modifiera nos modèles de notes d'information en quelques temps, on introduira cette possibilité. Donc, et une fois, donc, si les personnes sont informées, donc vous, ou le collègue n'aura pas, donc vous avez accès aux données, aux données contact probablement en tant que premier collecteur, par contre le réutilisateur, il n'aura pas forcément accès aux données de contact. Enfin, ça dépend, et donc l'information individuelle ne sera pas toujours possible dans tous les cas. Donc là, il y a la possibilité de faire une information générale, donc on a aussi... on s'appuie sur la jurisprudence de la CNIL pour faire ces informations qui sont obligatoires. Donc, individuelles, lorsque cela est possible, si on démontre que ça n'est pas possible, on fait une information collective. Alors, pour ceux, alors vous êtes, si vous êtes dans un laboratoire associé au CNRS, vous avez tous accès, je vous l'appelle pour le CNRS, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de pubs pour l'université, les universités. Vous avez sur l'intranet du CNRS, vous avez des pages qui s'appellent protection des données. Et en fait, vous avez toute notre documentation sur l'application RefSeal, sur des modèles de notes d'information, des référentiels. Puis vous avez une adresse mail et nous contacter. Et nous sommes toute l'équipe derrière. Voilà, cette adresse mail, et on essaie de vous répondre. On va avoir des délais de réponse un peu plus longs que d'habitude, mais parce que nous avons beaucoup de succès.